Vous écoutez On lit pour vous.
Edgar Morin. Un siècle de sagesse en trois leçons. Un texte de Oussama Bouis, paru le 7 juillet 2021 et mis à jour le 30 mai 2026 dans La Conversation. Le sociologue et philosophe Edgar Morin est décédé le 29 mai 2026 à Paris. Pour lui rendre hommage, nous republions cet article paru à l'occasion de son 100e anniversaire en 2021. Un être humain. Voilà comment répond d'abord Edgar Morin à la question « Qui suis-je ?» Un être humain qui, le 8 juillet 2021, a célébré ses 100 ans. Une vie qui, au plan personnel et historique, fut riche, aventureuse, traversée par les amours et les solitudes, les guerres, comme celle de 1939-1945 où il entra en résistance, les événements nationaux majeurs, comme ceux de mai 1968, mais aussi l'émergence de la culture de masse ou, plus récemment, la crise du COVID. Il serait bien difficile de retracer toute la richesse de cette longue expérience de l'architecte de la pensée complexe. Aussi préférerons-nous ici partager quelques éléments de sagesse issus de son livre « Leçons d'un siècle de vie ». Parce que cet ouvrage, dont chaque page est une leçon de raison, d'amour et de sagesse, est à la fois court et riche, nous ne chercherons pas à en faire la synthèse, mais à en restituer trois propositions qui, nous l'espérons, sauront donner envie au lecteur d'en faire une de ses lectures estivales. Sagesse numéro 1. Résister à toute forme de domination. Déjà, le préambule constitue une leçon de sagesse en soi. Bien que l'intitulé du livre soit « Leçon d'un siècle de vie », Edgar Morin ne prétend nullement donner des leçons. Plutôt, il cherche, à partir de son expérience singulière, à tirer quelques leçons dont il souhaite qu'elles soient utiles à chacun, non seulement pour s'interroger sur sa propre vie, mais aussi pour trouver sa propre voie. Si on peut voir dans ses propos une modestie intellectuelle qu'il caractérise si bien, on y retrouve surtout son souci premier qui anima son travail autour de la pensée complexe. Résister à toute forme de domination, d'idéologie, de dogmatisme ou encore d'idolâtrie. Ainsi, ce préambule ne manque pas de faire écho à sa conclusion du premier tome de la Méthode, 1977, page 387. Disons dès maintenant qu'une science complexe n'aura jamais à se valider par le pouvoir de manipulation qu'elle procure. Au contraire. En enrichissant et changeant le sens du mot « connaître », la complexité nous appelle à enrichir et changer le sens du mot « action », lequel, en science comme en politique, et tragiquement quand il veut être « libération », devient toujours de façon ultime « manipulation » et « asservissement ». Dès lors, pour résister à la domination, comme à toute forme de cruauté et de barbarie, il propose un principe d'action qui non pas « ordonne » mais « organise », non pas « manipule » mais « communique », non pas « dirige » mais « anime ». 1977, page 387. Sagesse numéro 2. Prendre conscience de la complexité humaine. Alors que les luttes identitaires sont vives, quel doux rappel que celui d'Edgar Morin sur la complexité humaine. Lui-même associé à plusieurs adjectifs en fonction des circonstances, français, d'origine juive séfarade, partiellement italien et espagnol, amplement méditerranéen, européen culturel, enfant de la terre patrie, il nous rappelle que chacun a une identité complexe, c'est-à-dire à la fois une et plurielle. Page 9. Ainsi, sur la question de l'identité humaine, dont il a largement développé le propos dans le 5e tome de la Méthode, il en tire cette sagesse salutaire qui va de pair avec la précédente. le refus d'une identité monolithique ou réductrice, la conscience de l'unité multiplicité, unitas multiplex, de l'unité, sont des nécessités d'hygiène mentale pour améliorer les relations humaines. Dès lors, il s'agit de se voir et de voir en l'autre cette complexité trinitaire de l'être humain, individu, société, espèce. D'ailleurs, permettre à chacun de s'accomplir individuellement, socialement et anthropologiquement constitue une des finalités éthiques de la pensée complexe, aux côtés de la résistance et de la barbarie. Aussi, cette complexité humaine s'exprime par une série de bipolarités. Homo sapiens, raisonnable, sage, est aussi homo demens, fou, délirant. Homo faber, créateur d'outils, technicien, constructeur, est aussi homo mythologicus, croyant, crédule, religieux, mythologique. Homo economicus, voué à son profit personnel, est également insuffisant et doit faire place à homo ludens, joueur, et à homo liber, pratiquant des activités gratuites. Page 74. Sagesse numéro 3. Vivre poétiquement, donc avec amour. Évoquons enfin la sagesse du savoir-vivre. Résister à la domination, donc à la cruauté et à la barbarie, prendre conscience de la complexité humaine et veiller à son accomplissement et, enfin, mener une vie poétique et avoir foi en l'amour. En effet, pour Edgar Morin, les malheurs, les efforts pour survivre, le travail pénible et sans intérêt, l'obsession du gain, la froideur du calcul et de la rationalité abstraite, tout cela contribue à la domination de la prose dans nos vies quotidiennes. Page 56. L'urgence est alors de retrouver le chemin de la poésie, de l'extase, de la convivialité, de la chaleur humaine et de la bienveillance aimante. Ainsi, peut-on espérer trouver cet état poétique, c'est-à-dire cet état d'émotion devant ce qui nous semble beau et ou aimable, qui est un état second de transe qui peut être très douce dans un échange de sourires, la contemplation d'un visage ou d'un paysage, très vive dans le rire, très ample dans les moments de bonheur, très intense dans la fête, la communion collective, la danse, la musique, et particulièrement ardente, enivrante, exaltante dans l'état amoureux partagé. Page 55-56. Pour Edgar Morin, la poésie suprême est celle de l'amour. Certes, tout ce qui est passion pour ne pas succomber à l'égarement doit être surveillé par la raison, une coopération nécessaire entre la raison ouverte et la bienveillance aimante. Aussi, toute raison doit être animée par une passion, à commencer la passion de connaître. Ainsi, amoureux de la connaissance, de la vie, des personnes qui l'ont accompagné dans l'aventure d'un siècle de vie, on pourrait attribuer à Edgar Morin ces beaux vers de Victor Hugo dans le poème « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Les Châtiments, 1848. Quoi? Ne point aimer, suivre une morne carrière, sans un songe en avant, sans un deuil en arrière? Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme, toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme, pour de vains résultats, faire de vains efforts. Oh non, je ne suis point de ceux-là, grand, prospère, fier, puissant ou caché dans d'immondes repères. Je les fuis et je crains leurs sentiers détestés, et j'aimerais mieux être, ô fourmis des cités, tourbe, foule, homme faux, cœur mort, race déchue, un arbre dans les bois qu'une âme en vaut cohue. Il resterait beaucoup à dire sur ce concentré de sagesse que constituent ces leçons d'un siècle de vie. Qu'il s'agisse de garder la raison ouverte à la complexité, l'incertitude et l'erreur, de la nécessité de régénérer sans cesse sa pensée par l'auto-examen ou encore des périls politiques, l'ouvrage est riche de ressources pour trouver sa propre voie. Merci, mon cher Edgar, et joyeux anniversaire. C'était Edgar Morin, un siècle de sagesse en trois leçons. Un texte de Oussama Bouis, paru le 7 juillet 2021 et mis à jour le 30 mai 2026 dans La Conversation.
Tout PrEP, rendre la PrEP accessible, peu importe où l'on habite au Québec. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 19 juin 2026 dans le magazine Fugue. Au Québec, l'accès à la prophylaxie pré-exposition, PrEP, demeure inégal. Trouver un professionnel de la santé à l'aise avec la PrEP, la doxy-PPE ou les réalités LGBTQIA+, peut s'avérer difficile à l'extérieur des grands centres urbains. Pourtant, les besoins sont bien réels. Les données canadiennes les plus récentes estiment qu'au moins 122 000 personnes pourraient bénéficier de la PrEP au pays, mais que seulement 19 % d'entre elles y ont effectivement recours. Pendant ce temps, les nouveaux diagnostics de VIH sont en hausse au Québec depuis 2021. Et près de la moitié sont posés à un stade tardif de l'infection. C'est pour répondre à cette réalité que la pharmacie A. Ben Abdennaby et E. Thibodeau, située dans le village à Montréal, a lancé en 2023 Tout PrEP, un service de téléconsultation accessible partout au Québec. Sans remplacer les options déjà existantes, cliniques spécialisées, médecins de famille ou infirmières praticiennes spécialisées, IPS, le modèle vise à simplifier l'accès à la prévention du VIH et à combler certaines lacunes du réseau. Pour les personnes vivant à l'extérieur de Montréal, cette approche représente une solution concrète qui évite souvent de devoir se déplacer vers un grand centre urbain. La PrEP est un outil extrêmement puissant. On estime qu'elle a déjà permis de réduire significativement le nombre de nouvelles infections au VIH. Pourtant, une grande proportion des personnes qui pourraient en bénéficier ne l'utilisent toujours pas, explique Emmanuel Thibodeau, pharmacien et cofondateur du service. Selon lui, le problème n'est pas tant l'existence du traitement que les nombreux obstacles qui continuent d'en limiter l'accès. Des obstacles qui perdurent. 10 ans après l'arrivée de la PrEP couverte par le régime public québécois, les barrières demeurent étonnamment similaires. La stigmatisation liée au VIH continue d'influencer les comportements. Plusieurs personnes associent encore la PrEP à des comportements jugés à haut risque et ne se reconnaissent pas dans les profils traditionnellement ciblés par les campagnes de prévention. Beaucoup de gens pensent encore que la PrEP ne les concerne pas. D'autres hésitent à parler de leur sexualité avec leur médecin ou craignent le jugement, explique Emmanuel Thibodeau. Les difficultés d'accès au système de santé demeurent l'un des principaux obstacles. Dans plusieurs régions, les personnes intéressées doivent parcourir de longues distances pour consulter un professionnel ou se heurtent à des intervenants peu familiers avec la PrEP. Il y a encore des gens qui demandent la PrEP et qui repartent sans prescription parce que le professionnel consulté ne connaît pas suffisamment le traitement ou ne se sent pas à l'aise de l'offrir, constate Emmanuel Thibodeau. À cela s'ajoutent les contraintes administratives liées aux analyses de laboratoire, les préoccupations entourant les coûts, ainsi que certaines inquiétudes concernant les effets secondaires. Une approche simplifiée. C'est pour répondre à ces réalités qu'est né le service. La prise de rendez-vous se fait en ligne ou via Clic Santé. L'équipe clinique, composée de pharmaciens et d'infirmières, travaille dans le cadre d'une ordonnance collective. Une consultation téléphonique de 25 à 40 minutes permet d'évaluer les besoins de la personne et de présenter les différentes options de PrEP, qu'elles soient quotidiennes, à la demande ou injectables. Chaque personne a une réalité différente. Pour certaines, l'injection est plus simple, parce qu'elle évite d'avoir à penser à un comprimé tous les jours. Pour d'autres, la formule orale, à la demande, correspond mieux à leur mode de vie. Notre rôle, c'est de présenter les options et d'aider la personne à choisir celle qui lui convient, explique Emmanuel Thibaudeau. Un service adapté à chaque situation. L'évaluation ne s'arrête pas au choix du traitement. L'équipe vérifie également si les dépistages requis ont été effectués récemment et peut, au besoin, prescrire les analyses nécessaires. On s'adapte vraiment au parcours de chaque personne. Certains patients ont déjà accès à des services de dépistage près de chez eux et ont simplement besoin d'un prescripteur pour la PrEP. D'autres préfèrent qu'on coordonne l'ensemble du processus. Le modèle de téléconsultation répond également à des contraintes concrètes. Avant même que la prescription soit finalisée, l'équipe peut vérifier la couverture offerte par les assurances privées ou publiques. Cette étape permet d'éviter les mauvaises surprises au moment de récupérer le médicament. Dans le modèle traditionnel, certaines personnes découvrent seulement à la pharmacie le montant qu'elles devront payer. Nous pouvons discuter des coûts dès le départ et explorer immédiatement les différentes options disponibles si le prix représente un obstacle, souligne le pharmacien. Combler les lacunes régionales. Grâce à son modèle à distance, le service rejoint aujourd'hui des personnes partout au Québec. Selon Emmanuel Thibaudeau, un peu plus du quart de la clientèle vit à l'extérieur de la région montréalaise. Dès qu'on s'éloigne des grands centres, l'accès devient plus difficile. Nous voulions offrir une solution qui fonctionne autant pour quelqu'un qui habite Montréal que pour une personne vivant en région. Le service semble également rejoindre une clientèle qui n'utilisait pas déjà les ressources existantes. Selon l'équipe, environ 80 % des personnes suivies n'avaient jamais pris la PrEP auparavant et ne se faisaient pas dépister régulièrement. Un constat qui suggère que ce modèle rejoint des personnes pour qui l'offre actuelle ne répondait pas entièrement aux besoins ou aux contraintes du quotidien. L'avenir de la PrEP en pharmacie. À l'heure actuelle, l'équipe travaille dans le cadre d'une ordonnance collective qui permet aux pharmaciens et aux infirmières d'assurer l'évaluation et le suivi des patients selon un protocole rigoureux. Mais Emmanuel Thibaudeau espère que les choses évolueront bientôt. Le projet de loi 67, actuellement à l'étude, pourrait éventuellement permettre aux pharmaciens québécois de prescrire directement certains médicaments préventifs, dont la PrEP. Pour Emmanuel Thibaudeau, l'objectif n'est pas que ce modèle demeure unique, mais qu'il inspire d'autres initiatives ailleurs au Québec. Plus il y aura de professionnels capables d'offrir la PrEP, plus les gens pourront y avoir accès rapidement, peu importe où ils vivent. Dans un contexte où les nouveaux diagnostics de VIH sont toujours en hausse, l'amélioration de l'accès à la PrEP demeure l'un des leviers les plus prometteurs pour renforcer la prévention partout au Québec. Info. Pour plus d'infos sur la PrEP et le service de téléconsultation, Tout PrEP, un service de la pharmacie A. Ben Abdenabi et E. Thibaudeau, www.touprep.com. C'était Tout Prep, rendre la PrEP accessible, peu importe où l'on habite au Québec, un texte d'Yves Lafontaine, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Fugue.
L'Eurovision et l'unité nationale. Un texte de Konrad Jakubowski publié dans Le Devoir du 4 juillet 2026. En sous-titre, McCartney peut-il réunir les Canadiens autour du concours de chansons le plus endiablé de la planète? La journée de la fête du Canada ne s'est pas déroulée exactement comme McCartney l'avait prévu. Alors que les mouvements souverainistes s'agitent en Alberta et au Québec, le premier ministre fédéral voulait profiter du 159e anniversaire de la Confédération pour vanter les mérites d'un Canada uni à un moment charnière de l'histoire du pays. L'occasion aura été bonne pour rappeler aux Canadiens, comme M. Carney l'avait fait dans un message publié tôt le 1er juillet sur les réseaux sociaux, qu'ils habitent, citation, « un pays formidable qui touche à trois océans, couvre six fuseaux horaires et s'étend sur 10 millions de kilomètres carrés de paysages à couper le souffle. » Fin de citation. M. Carney avait aussi réservé quelques surprises pour la foule réunie sur les plaines Le Breton à Ottawa. Il y a prononcé le traditionnel discours du premier ministre lors des cérémonies de la fête du Canada et en a profité pour annoncer que la capitale fédérale a été choisie pour accueillir le sommet de la francophonie en 2028. Mais la pièce de résistance de sa prestation fut incontestablement la révélation que le Canada allait participer au concours Eurovision de la chanson à partir de 2027, permettant ainsi au, citation, « pays le plus européen des pays non européens », fin de citation, comme M. Carney s'obstine à le décrire, de se rapprocher un peu plus du vieux continent et aux Canadiens de se réunir derrière ces artistes sur la scène internationale. Citation, « la célébration de la musique la plus folle et la plus grandiose au monde s'apprête à devenir encore meilleure, encore plus endiablée, car le monde a besoin de plus de Canada », a-t-il lancé devant la foule, fin de citation. Or, peu après le discours dithyrambique de M. Carney, la fête s'est gâchée. De violents orages se sont abattus sur la capitale fédérale, forçant les organisateurs des festivités de la fête du Canada à annuler le spectacle prévu en soirée ainsi que la présentation des feux d'artifice. La salle météo a aussi empêché M. Carney de prendre l'avion pour Edmonton, où il devait prononcer un autre discours devant les Albertains réunis pour célébrer le Canada, à quelques mois de la tenue d'un référendum sur l'avenir de leur province au sein de la Confédération. Il est difficile de ne pas y voir une métaphore de la tempête à laquelle risque bientôt de faire face M. Carney avec le référendum albertain du 19 octobre et la tenue, 2 semaines plus tôt, des élections québécoises. Un sondage de la firme Nanos, réalisé quelques jours avant la fête du Canada, montre que l'élan de patriotisme canadien suscité en 2025 par les menaces de Donald Trump de faire du Canada le 51e État américain s'est quelque peu estompé au cours des derniers mois. Si 54% des Canadiens perçoivent les États-Unis de M. Trump comme la plus grande menace à l'unité nationale, selon Nanos, le spectre d'un référendum sur la séparation de l'Alberta suit de près à 45%. Quant à la possibilité d'un référendum au Québec, seuls 18% des Canadiens y voient une menace à l'unité nationale. En effet, au Canada anglais, toute l'attention se tourne actuellement vers les efforts déployés par M. Carney pour contrer la montée du séparatisme en Alberta en promettant un nouveau pipeline vers la côte ouest de la Colombie-Britannique. Le premier ministre a fait un autre pas dans cette direction cette semaine en soumettant au Bureau des grands projets la proposition du gouvernement de l'Alberta pour la construction d'un nouvel oléoduc d'une capacité d'1 million de barils de pétrole albertain vers la côte sud de la province voisine. En maintenant l'interdiction sur les pétroliers au large de la côte nord de la Colombie-Britannique, M. Carney aura réussi à surmonter l'opposition du premier ministre de cette province, David Eby, au projet chéri de son homologue albertain, Daniel Smith. Même s'il manque toujours un promoteur privé à ce pipeline, M. Carney semble déterminé à faire avancer le projet avant que les Albertains ne votent cet automne. Rappelons que la question référendaire leur demandera de choisir entre le maintien de leur province au sein du Canada ou la tenue d'un référendum contraignant sur la séparation à une date ultérieure. Reste à voir si les efforts de M. Carney pour faire avancer leur projet de pipeline suffiront à satisfaire les Albertains qui songent actuellement à voter pour un deuxième référendum. Il n'en demeure pas moins que les Québécois sont encore les plus ambivalents des Canadiens. Contrairement aux autres Canadiens, ils s'identifient toujours plus à leur province qu'à leur pays. Selon Nanos, 36,7% des résidents se décrivent d'abord comme Québécois, alors que 28,1% s'identifient d'abord comme Canadiens et que 31,2% disent s'identifier au Canada et au Québec dans une proportion égale. En Ontario, à peine 0,9% des résidents s'identifient d'abord à leur province contre 77,5% qui se définissent d'abord comme Canadiens. Nanos n'a pas fourni des données comparables pour l'Alberta, mais pour les résidents des prairies prises globalement, seuls 15,2% s'identifient d'abord à leur province contre 55,3% qui se disent Canadiens en premier. Qui plus est, les Québécois accordent toujours moins d'importance à l'unité nationale, 59,5%, que les Ontariens, 88,3%, ou les résidents des prairies, à 77,6%. De quoi concentrer les esprits à Ottawa à la veille des élections du Québec? Le Canada verra sûrement son 160e anniversaire, mais il faudra plus que l'Eurovision pour le garder indéfiniment uni. Fin de cette chronique de Konrad Jakubowski titrée « L'Eurovision et l'unité nationale » publiée dans le Devoir du 4 juillet 2026.